plan, toi. UQTR.
À vos marques, prêts? Votez! Dans le cadre du premier budget participatif, des citoyens ont présenté des projets pour embellir et améliorer la qualité de vie à Shawinigan. Il ne vous reste que quelques jours pour décider. Quel projet vous souhaitez voir se réaliser? Vous avez plus de 18 ans et vous résidez à Shawinigan? Votez avant le 20 septembre, en direct sur le site shawinigan.ca/budget-participatif ou encore en vous présentant à l'hôtel de ville.
Quand vient le temps d'acheter des portes et fenêtres, faites affaire avec les meilleurs. Portes et fenêtres Arco, secteur Cap de la Madeleine, voisin de Beaubain. portearco.ca.
T'as toujours pas réglé le problème du photocopieur.
La technologie, c'est donc pas simple.
Hein? Je sais pas, Génanda. Hein?
L'écran tactile de 7 pouces avec Android Auto et un boni de 500 $ à la location ou au financement sur les modèles Civic 2019 sélectionnés. Détails sur Honda.ca.
En semaine, écoutez les amateurs de sport avec Mario Langlois et ses collaborateurs. Une présentation de Boston Pizza. Amateurs de bons moments, rassemblez-vous en famille ou entre amis chez Boston Pizza pour ne rien manquer de l'action. Boston Pizza, c'est bon d'être ensemble.
Les nouvelles, présentées par Houleroy Syndic. Étouffé par les dettes, sortez-vous-en la tête haute et faites appel à Houleroy Syndic au 1-844-40-DETTE.
Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Une vue d'ensemble de l'actualité. Midi Plus.
Voici Robert Pilote.
Et toute l'équipe, midi, une minute, bon lundi, bonne rentrée. Il y en a qui reviennent de vacances. Saviez-vous qu'il y en a qui reviennent de vacances maintenant? On prend les vacances plus tard, maintenant, mois de septembre, on a du beau temps.
Il y a des gens qui prennent des vacances pour venir au Festival Western aussi.
Oui, on vous a vu. Bonjour, Julie Boulay qui arrive en studio.
Salut Robert, salut Cathy, salut
Julie. Une heure salut, avec nous Serge. Autres aujourd'hui. On vous a vu d'ailleurs à la télévision. Pas plus tard que vendredi.
C'est vendredi avec Mario
avec
Dumont.
Mario Dumont, oui. Puis en plein contrôle du sujet, bien sûr que Saint-Tite.
Ben, je suis née dedans, c'est pas difficile. Ouais. Hein? Je suis née dans ce festival. En fait, j'avais déjà 8 ans quand ça a commencé. Alors, mais j'ai grandi avec l'événement. Donc, je le connais bien. J'ai fait partie de l'organisation également. J'ai été présidente à la 30e édition. Alors, c'est un sujet facile pour moi, mais c'est tellement un phénomène, ce festival-là.
Absolument, je
deuxième événement au Québec. Tu sais, on n'est pas à Montréal, puis on n'est pas à Québec. On est dans un village.
Oui.
Alors, deuxième événement en termes de retombées économiques avec des études là, qui sont les mêmes. Là. Pas des études faites à Saint-Tite, puis des études faites à Montréal, là, la même étude de KPMG dit que Saint-Tite est le deuxième après le Jazz de Montréal.
Je disais à Pascal Lafrenière tantôt, tous les chefs se donnent rendez-vous à Saint-Tite. Pas rien, là. Ils vont là. C'est une publicité pour Saint-Tite coast to coast.
Ah ben,
c'est du national.
C'est ça. C'est un bassin. C'est parce que c'est un bassin très représentatif de toute la population du Québec, mais d'ailleurs, évidemment, mais il y a des gens de partout, de toutes les régions. Alors, quand tu es en campagne électorale, tu veux des bains de foule, tu veux voir des gens, tu veux être capable de te rendre accessible dans la rue. Alors, c'est un endroit exceptionnel pour les chefs de parti.
Julie, bouge pas dans un petit moment. On a quelques beaux sujets à vous soumettre, mesdames, messieurs. Et comme à l'habitude, vous pouvez nous appeler à 376-1069. L'actualité, Cathy?
Le Collège des médecins a congédié le syndic qui a mené la bataille au psychiatre Pierre Mailloux. Le Collège a mis fin au contrat du docteur Mario Deschênes sans spécifier les raisons. Ce sont plusieurs plaintes qui ont été menées au Collège qui ont donc incité le Collège à prendre cette décision. Le docteur Deschênes a été mêlé à plusieurs dossiers ces dernières années et le plus connu étant celui du doc Mailloux. À plusieurs reprises, le psychiatre a qualifié Mario Deschênes d'hystérique. Pierre Mailloux clame que le syndic Deschênes a toujours été son ennemi numéro un. Et Pierre Mailloux croit que son dossier pourrait avoir joué dans la décision du Collège.
Ben là, il pourrait y avoir un lien, c'est sûr! Mais là, la soupe va être chaude, je te préviens. Je suis pas sûr qu'il voulait le supporter dans une poursuite pour dommages et intérêts, là.
Le chef néo-démocrate dit que de porter barbe et turban au Québec sont sa manière de défendre les droits de ceux qui s'estiment victimes de la loi québécoise sur la laïcité. Jiang Ming-sik a dû encore une fois expliquer pourquoi il ne voudrait pas participer à la contestation devant les tribunaux de cette loi.
Ma présence montre que je suis quelqu'un qui pense qu'un projet de loi qui discrimine la population, ce n'est pas une bonne idée. Ça divise la population et je suis pour rassembler les gens. Mais je veux utiliser mes efforts. Un, je reconnais la compétence du Québec, mais je veux utiliser mes efforts pour avancer les enjeux où il n'y a pas un chicane, où on peut travailler ensemble.
Une météo très clémente, une programmation qui a bien fonctionné et une course en levant jusqu'à la fin ont fait un succès de la 86e Classique internationale de canot de la Mauricie. Les dirigeants ont fait le bilan de la dernière édition avec le sourire aux lèvres. Le directeur général Stéphane Boileau veut continuer sur cette lancée et le financement devient encore plus crucial. Pour la prochaine année, une loterie de financement sera mise sur pied avec un gros lot de 50 000 $. 4 000 billets seront mis en vente. Monsieur Boileau est aussi très heureux du volet trifluvien de la Classique.
On a senti que la ville de Trois-Rivières prenait le tournant de la Classique. Mais le fait que les Délices d'automne aient pris la décision qui n'a pas rapport avec la Classique de changer de date, tout de suite, le conseil de ville a décidé de vraiment mettre en avant la Classique pour ce week-end-là. C'est sûr qu'on est content.
Le rideau est tombé sur la 52e édition du Festival Western de Saint-Tite. Un bilan provisoire positif pour les 10 jours de spectacles, de rodéo et de visite des chefs des partis fédéraux. Même si la pluie est venue se mêler aux festivités, ça n'a pas refroidi les festivaliers, comme le mentionne le directeur général du festival, Pascal Lafrenière.
Oui, on est bien heureux du bilan qu'on peut présenter parce que malgré la pluie puis le mauvais temps, les gens se sont présentés. On a gardé notre essence. Les gens sont venus avoir du plaisir, célébrer là, tout ce qui touche la culture country western. Puis il faut être prudent, là, quand tu sais, nous, les vrais chiffres, on va les avoir un peu plus tard.
Et en terminant, la programmation 2020 de l'Amphithéâtre Cogeco prend forme rapidement. On savait déjà que The Musical Box serait de passage le 11 juin et Francis Cabrel le 13 juin. La Corporation des événements de Trois-Rivières a annoncé vendredi que Éric Lapointe serait sur les planches le 4 septembre prochain. Voilà, Robert.
Merci. Merci beaucoup, Cathy. Dans le domaine du sport, j'ai hâte de voir un bon match de hockey. Je m'ennuie de tout ça.
Mais écoute, ce soir, c'est un match pré-saison là, entre le Canadien et les Devils. Le premier de ce calendrier. D'ailleurs, il y a Piqué Subban et le tout premier choix du dernier repêchage, Jack Hughes, qui n'ont pas fait le voyage à Montréal, s'est présenté au 106.9 à compter de 18h30 avec Martin McGuire et également Danny Dubé. Mauvaise nouvelle pour les partisans des Steelers de Pittsburgh au football de la NFL, puisque le quart Ben Roethlisberger sera absent pour le reste de la saison. Il devra subir une opération au coude droit. Et finalement, ben, vous savez qu'il y a du baseball toujours du côté de Shawinigan. Les Cascades qui ont perdu la première rencontre de demi-finale contre les Brewers. Donc, ce soir, c'est le match numéro 2 à Montréal.
Je vais vous parler de météo un petit peu. Je pense que c'est Météo Média qui nous annonce, là, je ne sais pas, une espèce d'hiver
du froid,
infernal.
Un hiver difficile.
Ce sera difficile, mais l'an passé, ça n'a pas été facile non plus.
Mais comme je te dis, c'est les mêmes qui nous disaient que l'été, la chaleur arriverait seulement au mois d'août. Parce que moi, je l'ai retenu, là, étant donné que mes vacances étaient au début du mois de juillet, puis j'étais découragé. Puis je pense que finalement, il a fait beau cet été. Il a fait
ça
beau et chaud.
Ils se sont trompés.
Ils sont trompés.
Alors, on va espérer qu'ils se trompent pour leur pronostic également de l'hiver.
On verra bien. Oui. Quelqu'un me racontait que, enfin, pas si longtemps que ça, il y a 3-4 ans, là, au mois de décembre, on pouvait se balader en running shoe le 15 décembre, un peu avant messe de minuit même, je vous dirais.
Mais l'année dernière, la neige est arrivée tôt, là, puis jamais partie, là, tu sais, parce que des fois, il y a toujours une première tempête au mois de novembre, tu dis, bon, ben, elle va partir, puis on va se retrouver dans la neige dans 2-3 semaines, mais comme jamais partie, la
cette
première...
Année,
oui, c'est ça.
T'es bien placé pour nous dire que cette année, il faut changer les pneus plus tôt.
Ben, il faut les changer, c'est sûr. Selon la loi, c'est le 15 novembre.
C'est 15 jours plus tôt cette année, hein?
C'est ça.
Bon, c'est bien ça. Parce que quelquefois, là, ça avait comme pas de bon sens. L'an passé, on était dans la tempête, puis il y en a qui avaient encore les pneus d'été.
Mais il y avait une raison à ça, Robert. Quand la loi était passée, là, pourquoi on avait mis ça en décembre, il y avait toute la gang des... Tu sais, il faut... Souvent, quand on veut changer les façons de faire puis qu'on met en place une loi, faut peut-être donner un peu de temps pour que les gens s'adaptent ou s'ajustent. Et il y avait tous les bébés boomers qui partaient comme à fin novembre, début décembre, puis qu'ils s'étaient soulevés. Là, je comprends qu'on ne fait pas des lois pour une catégorie de gens, puis on l'a fait pour la sécurité sur la route, mais ces gens-là avaient fait des représentations. Écoutez, nous autres, on part en Floride, on va être obligé de mettre des pneus d'hiver pour l'équivalent d'une semaine. Et là, il a fallu moduler la loi puis l'adapter pour faire en sorte que ces gens-là n'aient pas des contraintes aussi importantes que de changer des pneus qui ne serviront pas parce qu'ils sont partis tout l'hiver. Alors, il y a eu des ajustements qui ont été faits. Après, ils pouvaient s'inscrire, je pense, sur Internet puis dire qu'ils quittaient à telle date. Alors, mais c'était de mettre cette mécanique-là en place qui a fait en sorte qu'on avait arrêté la date un peu plus tard pour permettre cette transition-là.
J'aurais pas besoin de pneus d'été d'hiver cette semaine, puisqu'on prévoit des températures chaudes. 19 aujourd'hui, 20 demain, 19 mercredi, 21 jeudi, 24 degrés vendredi. Et pour samedi, le 21 septembre, 24 degrés.
Oui, c'est ça.
Également.
Écoute, on va en profiter parce que là, ça va commencer à tirer sa fin, là,
ça achève.
Ces températures-là. Là.
Ça achève. Si on veut faire une petite
balade.
C'est
bien agréable, par contre.
Aux pommes. Hein?
Oui. Main dans la main. Puis quand les feuilles changent de couleur, Robert, on a des journées magnifiques aussi qu'on peut profiter de l'extérieur. Là.
Mais là, pour le moment, c'est nuageux. On est à 15 degrés à midi 9 minutes.
Pour joindre nos animateurs,
Robert Pilote et Julie Boulay.
Composez le 376-1069.
Alors, c'est un sondage qui nous est présenté aujourd'hui que vous retrouverez dans le Journal de Montréal, entre autres. Et on est en train de plus en plus de s'enligner. En tout cas, pour le Québec, là, on est de plus en plus en train de s'enligner sur la « ballot question », c'est la question de l'urne, comme on dit, pour la prochaine élection. 21 octobre, on sera aux urnes et la laïcité devient de plus en plus un enjeu. C'est le grand titre du Journal de Montréal, un sondage léger, le journal, qui raconte que 44 % des Canadiens sont en faveur de la loi 21, la loi sur la laïcité. 50 % des Québécois rejettent la contestation judiciaire. On va revenir à ce que tu disais la semaine dernière, Julie.
Oui, oui, oui.
Tu disais, il y a comme deux mots qui risquent d'emmerder.
Oui. Justin. Tout le long de la campagne, quand il a dit, pour l'instant, je ne compte pas contester la loi 21 qui a été passée par le gouvernement de M. Legault. Alors, pour l'instant, là, ça ouvre la porte, Robert, très grande. Puis ça veut dire qu'un jour, il pense qu'il va la contester. Et nous, là, les Québécois, là, je pense qu'on en aura le bol d'entendre parler de ça. Je pense qu'on est content que le gouvernement Legault ait décidé de passer sa loi 21 avec un appui assez majoritaire au Québec. Puis on dit, enfin, là, on a pris une position, puis elle respecte la volonté des Québécois, puis là, on est prêt à passer à autre chose. Puis lui, là, Justin, là, il a l'intention de nous ramener encore dans toute cette poutine-là. Et je pense que ça va irriter certains Québécois. Puis d'ailleurs, les sondages au Québec, là, ils étaient comme à 19 points en avance au Québec la semaine dernière. Bien, je pense, je sais pas quand est-ce que le dernier sondage avait été fait. Et là, son écart s'est amenuisé, là. Il est à 8,2 % en avance, les libéraux par rapport aux conservateurs au Québec. Ceci dit, c'est au Québec. Parce que dans le reste du Canada, quand il dit ça, il va sûrement chercher des appuis, là, parce que le reste du Canada n'était pas nécessairement, quoi que là, on voit dans les sondages, qu'ils ne sont pas si pires, ils sont un peu en accord avec notre loi 21, mais c'est un sujet moins chaud, puis c'est moins déchirant que ça ne l'est au Québec.
On va parler, si tu veux, bon, la laïcité, on pourrait y revenir, si vous voulez nous en parler, 376-1069. On va parler, tu as fait de la politique pendant quelques années. L'aspect marketing, hein, la perception qu'on a d'un parti politique, d'un personnage politique, c'est drôlement important.
L'image, c'est très important.
Une campagne, tu sais, c'est une campagne de mise en marché, ni plus ni moins, avec les couleurs, les bonnes photos, les bons logos, les bons slogans.
Les bonnes pancartes.
La bonne musique. Et ici, je vais vous faire entendre la chanson qu'ils ont accepté de changer. Hein. La chanson en anglais, puis la chanson en français. En français, ça avait comme pas de bon sens. Et
Non, franchement, sincèrement, là, on a beau la réécouter, puis on comprend à peine certains mots, là, mais on comprend pas la phrase, puis on comprend pas le sens non plus. On sait pas pourquoi, puis... Quel message il voulait nous envoyer par cette chanson-là? On n'est pas capable de choisir.
Alors, le groupe qui fait ça, c'est les Strombolas. C'est en anglais, ça doit être très, très bon. En tout cas, c'est One Hand Hop.
Ben,
ça, c'est le titre de la chanson. Sauf que en français, ça fonctionne pas. D'ailleurs, quand tu prends la traduction, là, c'est
n'importe lève quoi. Les mains, on lève les mains, on saisit les étoiles. Mains, puis, on comprend pas trop là, pour rester près de toi. Mais un, on comprend pas bien les mots, les paroles. Puis deux, comme je te disais tantôt, on comprend pas bien le sens non plus. Quel est le message qu'on veut nous envoyer avec cette chanson-là?
Ici,
on y perd notre français.
On y parle notre latin, même,
oui,
tu notre,
oui, tout à fait. tout latin, à fait. Mais, oui, c'est encore plus profond.
Mais ici, là, une chanson, dans le cadre d'une campagne électorale, doit-elle porter un message électoral? Est-ce que où on peut tomber, comme je le disais ce matin à la commission PN, tu sais, les chansons des Beatles, sortez quelques paroles des Beatles, c'est insignifiant. Tu sais, ça dit pas grand-chose, sauf que c'est du grand art, le refrain est entraînant, la musique est bonne, les voix sont belles. Est-ce que un espèce de jingle comme ça, politique, lui, doit porter un message?
Bien, moi, je ne crois pas nécessairement que... Écoute, si ça peut porter un message, c'est intéressant. Moi, je pense que ça doit être... une chanson dynamique, forte, une chanson qui est capable, lorsque des rassemblements, là, de soulever des passions, de faire en sorte que les gens, là, leur chef va aller parler, ils vont être gonflés à bloc, ils vont crier, ils vont applaudir. Il faut qu'elle soit entraînante, puis qu'elle amène cette mobilisation-là de la foule ou de la salle où ils sont. Ce qui est étonnant, Robert, et moi, ce qui m'étonne, tu dis, là, ça vient en plus de la part du gouvernement en place. Alors, le gouvernement en place, on s'attend, ils sont en place, ils ont des effectifs, ils ont du personnel, ils ont des budgets pas gouvernementaux, là, mais le Parti libéral du Canada a de l'argent. Alors, tu dis, comment se fait-il qu'on s'attend d'un gouvernement en place qui soit bien préparé? Uh-huh. On s'attend à ce qu'il ne fasse pas ce genre de gaffe-là en début de campagne. Surtout pas pour une chanson.
Parce que ça reste... Je peux te lire les paroles en anglais.
Ça marche pas.
En anglais puis en français.
Oui. Okay?
En anglais, c'est « We can hold one hand up for tomorrow ». Nous pouvons tenir une main en l'air pour demain, mettons. « We can hold one hand up to the stars ». Donc, pour saisir les étoiles, la main toujours pour saisir les étoiles. « We can be the change that we wanna see ». Nous pouvons être le changement que nous pouvons apercevoir. D'après ce que... Traduction libre. Là, maintenant, on va avec en français. OK? En français, c'est... On lève une main haute pour demain. On lève une main haute aux étoiles. On peut être l'avenir aujourd'hui.
Écoute, non, mais c'est parce qu'en plus, on l'entend pas bien, Robert. C'est qu'on l'entend pas bien. Alors, le message, il est pas reçu. La musique est dynamique, la musique est enlevante, mais on n'entend pas bien le message.
Serge a trouvé...
Puis la mauvaise traduction.
Serge a eu un bon flash, OK? Qu'est-ce qui fonctionne comme chanson politique? Stéphane Venn. Okay, qui composait à l'époque, je pense que c'était pour le Parti québécois.
Oui, je pense que ça remontait à 1976.
OK, écoute, bien, ça, c'était toute une chanson, ça.
À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient, à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment on y tient. À partir d'aujourd'hui, demain nous
ça, c'était, ça allait titiller
mais,
là,
mais, dans mais, de mais est-ce que cette chanson-là a été composée pour une campagne électorale? C'est ça la distinction.
Je pense que ça me t'est servi à ce moment-là.
Mais est-ce que c'était une chanson qui existait puis qui s'est affichée avec leur message?
Je pense que c'était
ou s'ils l'ont composée pour le moment, québécois. Pour le parti? Alors, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil. Là, on a pris une chanson qui existait, on a trouvé que la formule correspondait au message qu'on voulait, puis on l'a traduit avec une traduction qui est excellente. C'est crabe, puis on comprend plus du tout le message. On comprend plus du tout le message. Très malhabile, très maladroit. C'est une gaffe, puis une gaffe qui est étonnante de la part du gouvernement en place, parce que dans ce temps-là, on s'imagine que le Parti libéral qui forme le gouvernement, normalement, est mieux préparé que les autres, suffisamment de gens autour de lui pour bien le conseiller. Alors, c'est étonnant. C'est étonnant, franchement. Ils vont corriger cette faute-là en espérant que ça ne laissera pas de traces. Je ne crois pas que ça va laisser des traces significatives. Les gens ne changeront pas leur vote pour ça, Robert. Mais ça leur donne mauvaise presse puis une mauvaise image.
Oui. Ben, il y a trois
éléments. Le temps que ça dure.
Trois éléments. Là. Bon, il y a eu ça, la chanson. Il y a l'histoire sur la laïcité. Je ne sais pas comment il va faire pour s'en sortir.
Mais la laïcité, ça va le suivre, ça. Ça va le suivre une bonne partie de la campagne.
Bon, mais s'il ne fait pas de débat, il ne pourra pas s'expliquer. Là, la semaine dernière, tu as vu,
c'est il était absent.
Il était absent du premier débat de la campagne. Bon, tu ne fais pas de débat, tu ne peux pas t'expliquer non plus.
Ça, c'est une drôle de décision de ne pas être là. Je ne comprends pas cette décision. On dit les absents toujours tard, hein, Robert? Hein?
Oui.
Alors, ils étaient chanceux, ils ne l'ont pas attaqué. Ils ont fait leur débat entre les trois qui étaient là. Ils n'ont pas soulevé beaucoup l'absence de M. Trudeau. Ils n'ont pas, attaqué beaucoup son bilan, alors qu'ils auraient dû jouer davantage cette carte-là, là, les trois autres chefs. Mais moi, je pense qu'il n'y a rien à gagner à ne pas aller s'expliquer à l'égard de, que ce soit le déficit qui augmente de façon importante, là, très importante, même si on n'est pas en récession, que ce soit pour l'achat du pipeline.
Quand on dit très important, là,
c'est très important.
On parle de 30 milliards par année, ou à peu près entre 25 puis 30 milliards, quatre fois consécutives.
Écoute, puis là, on n'est pas en période de récession, parce que normalement, les gouvernements augmentent les déficits quand ils investissent massivement pour compenser une période de récession. Ils veulent maintenir les gens en emploi, donc le gouvernement a la responsabilité de soutenir l'économie. Là, ce n'est pas le cas, puis on est là déficit par déficit. Là. Alors ça, là, on est en train d'endetter les générations futures, Robert. C'est tes enfants, c'est tes petits-enfants. Ouais. Il y a quelqu'un qui va payer pour ça éventuellement.
Il y en a qui s'en fout carrément.
Ouais, il y en a qui
Ce qui est important, et j'ai entendu en fin de semaine, je ne veux pas le nommer, je les salue, je vous salue, tous ceux que j'ai côtoyés en fin de semaine. C'est peut-être un de vous, là, regardez-vous dans le miroir. Non, mais il y a quelqu'un qui dit, moi, tu sais, ce que je veux, là, c'est qu'un politicien m'annonce des mesures pour que j'en aille plus dans mes poches. C'est ça qui est important pour moi. Je vais voter pour celui qui va en mettre plus dans mes poches.
Ben oui, mais ça va pas nécessairement dire m'a creusé le déficit puis vous allez en avoir plus dans les poches. Si c'est ça, j'espère qu'on veut de meilleurs gestionnaires ça au gouvernement.
Il a pris où l'argent pour toutes ces mesures sur les familles, pour les familles?
Non, mais c'est ça que je te dis, ça n'a pas de bon sens, Robert. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont élus pour gérer de façon responsable les sous qu'on leur envoie.
Ouais.
OK? Faire des déficits, là, moi, j'appelle pas ça faire une saine gestion. T'en fais des déficits quand t'as pas le choix.
Non, mais tu peux toujours emprunter de l'argent si tu bâtis une infrastructure qui va te rapporter éventuellement. Je te donne l'exemple.
Ah, ben oui, mais ça,
l'amphithéâtre que j'ai à Trois-Rivières. Tu sais, un exemple près de nous autres, là. Bon, on a emprunté pour bâtir ça.
C'est clair.
A coûté 60 millions à peu près, là.
C'est clair.
Bon, on peut-tu dire qu'aujourd'hui, ça rapporte?
Non, mais ça, c'est autre chose, ça, Robert. Ouais.
Mais c'est pour payer l'épicerie.
S'endetter pour des infrastructures, c'est une chose. S'endetter pour payer le quotidien,
l'épicerie.
Là, l'épicerie, c'est autre chose. C'est autre chose.
On va s'arrêter quelques instants, si tu veux. Une courte pause qui est prévue à cette heure-là. On va poursuivre dans cette même veine. Et j'ai d'autres sujets à te proposer également. Je sais que tu es bien préparé. Julie Boulay est avec nous autres tout au cours de cette heure. Vous voulez intervenir, vous avez des commentaires à faire. Vous la trouvez bonne, la chanson de Justin Trudeau. Vous aimeriez peut-être lui proposer des paroles. On va peut-être rajouter des paroles, puis il va la refaire. Hein? Bernard Drinville a raconté ce matin, c'est un scoop qu'il y a eu.
Oui, mais là, ils vont refaire la
les paroles, d'après moi.
Ils vont refaire leurs paroles ou ils vont refaire une meilleure transposition en français. Là,
oui, c'est ça. Ils vont faire les paroles en français.
C'est ça.
Parce que si jamais vous voulez proposer des paroles pour aider le compositeur en chef du Parti libéral, vous êtes les bienvenus. Le numéro à composer, le voici.
Pour joindre nos animateurs,
Robert Pilote et Julie Boulay.
Composez le 376-1069.
Il est midi 27 minutes, j'avais entendu le numéro de téléphone, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous aurez deux minutes pour nous passer un petit coup de fil aujourd'hui. On va parler de Mme Chabot, et c'est le Bloc québécois. Louise Chabot, une ancienne syndicaliste, se présentait à Trois-Rivières à l'investiture. Mais finalement, c'est pas elle qui a gagné, c'est Mme Charbonneau. Elle a gagné, Mme Charbonneau, par deux votes.
Par une main, c'est ça.
Oui, je pense que c'est deux, trois votes, mais elle m'a dit ça l'autre fois. Je pense pas que Mme Charbonneau, c'était la candidate du Bloc québécois. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? C'est qu'on a finalement décidé de prendre Mme Chabot, qui se présentait dans Trois-Rivières, et là, on l'amène dans Blainville.
Puis là, est-ce qu'il va y avoir une convention dans Blainville où elle est couronnée candidate?
Je ne sais pas. On pourrait peut-être faire fouiller.
Parce que si elle est couronnée candidate, ben, on repassera pour la démocratie au bloc aussi. Hein?
Ouais, mais, peut-être Cathy pourrait... Je sais qu'il y a un texte aux nouvelles qui a été fait ce matin. On a demandé à Cathy de venir nous dire ça. Parce que si elle est couronnée dans Blainville, c'est parce qu'on la voulait, le parti voulait.
Ah oui, tout à fait.
De
Louis Chabot. En fait, tu sais, il y a des fois le bloc qui dit « Nous autres, on n'est pas pareil », mais finalement, ils ont fait pareil comme tous les autres partis. Quand ils ont un candidat vedette ou quelqu'un qui les a aidés beaucoup dans la préparation de leur campagne électorale ou pour la mise en place de documents, etc., quand ils doivent quelque chose à quelqu'un, trouvent moyen, Robert, de leur donner des comtés comme ça. Là, souvent, ce sont de très bons comtés, souvent, parce que ces candidats-là ont comme un privilège. Alors, c'est pareil au bloc comme dans tous les autres partis.
Oui, Blainville, je ne sais pas si c'est un bon comté.
Je
ne
vais pas dire qui est le candidat. Mais là, c'est un peu embêtant là, parce que le bloc va monter dans les sondages un peu. En tout cas, il va faire mieux que le dernier score.
Parce que des comtés sûrs pour le bloc.
Mais dans Blainville, je serais étonné. Là, peut-être pas le candidat, le député présent, c'est peut-être pas un bloquiste, mais par les années passées, ça ne m'étonnerait pas que c'est un comté où il y avait un siège bloquiste.
Alors, Cathy m'a amené la nouvelle qui circule de ce temps-là, battue à l'investiture du Bloc québécois dans le comté de Trois-Rivières le 4 septembre dernier. L'ancienne présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Louis Chabot, sera finalement candidate au parti dans Thérèse de Blainville. Le chef du parti, François Blanchette, annoncera sa candidature en fin de journée lors d'une activité partisane à Sainte-Thérèse. Madame Chabot est une résidente du comté de Berthier-Masquinongé, qui est à côté. Il y a quelques jours, M. Blanchette avait dit que pour lui, la question du lieu de résidence d'un candidat n'enlevait rien à sa capacité de défendre des dossiers locaux.
Bien ça, il a raison. On n'est pas obligé de demeurer dans le comté. Puis quelqu'un qui fait bien son travail, c'est pas parce qu'on demeure... On n'est pas obligé. Alors, à partir du moment où on n'est pas obligé, ça arrive qu'il y a des députés qui représentent des circonscriptions puis qui sont capables de se mettre bien au parfum des dossiers, des enjeux, de connaître les intervenants. Alors, tout ça, moi, là-dessus, de sa capacité à Mme Chabot de s'intégrer dans un milieu, même si elle n'est pas résidente, j'ai pas de problème. Là où j'ai un problème, c'est que, je n'ai pas un problème, mais c'est quand le Bloc dit nous autres, on agit différemment.
On est démocrate.
Bien là, de toute évidence, là, c'était à quelqu'un à qui il devait quelque chose, à qui il voulait lui dire merci. Le remerciement, c'était de lui donner un comté. Alors, ça n'a pas passé à Trois-Rivières. Ils ont trouvé le moyen de la nommer ailleurs. Ça serait intéressant de voir dans ce comté-là, Serge, qui est le député actuel, mais remontons dans le temps où il y avait beaucoup de députés bloquistes. Est-ce que c'était un comté bloquiste? Parce qu'on ne peut pas se fier à qui est là actuellement parce que le Bloc est descendu très bas aux dernières élections. Mais avant, quand le Bloc avait quand même un certain nombre de députés au Québec, est-ce que ce comté-là, c'était un comté bloquiste? Ça serait intéressant de savoir parce que j'imagine...
Même Yves-François Blanchette a décidé de ne pas se présenter dans Saint-Maurice, qui serait son comté.
Oui.
Saint-Maurice Champlain, parce que je pense que sa conjointe est là, puis son lieu de résidence est là.
Oui, tout à fait.
Bon, alors il a décidé de ne pas aller là. Pourquoi?
Bien, parce que François-Philippe est là. François-Philippe va être dur à tasser, là. François-Philippe est là et il a choisi un comté, Yves-François, qui devait avoir un fonds plus bloquiste. Alors, il est allé, je pense, lui aussi, dans la Naudière ou dans les Laurentides, là, qui se présente Yves-François, si je ne me trompe pas. Là.
D'après ce que je peux voir ici, là, le député actuel est un député libéral.
Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est avant, parce que c'est sûr que la dernière élection, le Bloc n'a pas scoré beaucoup et n'avait pas beaucoup de représentants au Québec. Mais dans le temps où le Bloc était fort, est-ce que ce comté-là était détenu par les bloquistes? Ça serait intéressant de savoir.
Je vais fouiller ça. Là, c'est l'ordinateur est en train de me répondre.
Parce que c'est sûr que pour là, c'est pas révélateur parce qu'il n'y a pas beaucoup de bloquistes élus au Québec. Là.
On dit
une dizaine. Là.
Yves-François Blanchette que c'est le deuxième fort de Chambly. T'as vu ça?
Ils sont une dizaine. Ils sont combien actuellement au Québec, les bloquistes?
Ah, pas plus que ça, là. En bas de 10.
C'est ça.
En bas de 10.
C'est ça.
Non, mais son slogan, c'est le deuxième homme fort ou le deuxième fort de Chambly, c'est lui. Alors, non, il n'était pas pour venir se présenter dans Saint-Maurice-Champlain.
Non, écoute, il a calculé ses chances, là, parce que s'il ne gagne pas, c'est un peu plate pour le Bloc, là, parce que c'est la personne la plus connue. On l'a vu, c'est un bon communicateur. On l'a vu à la télé, François. Il y a quand même une certaine notoriété au Québec. Alors, si lui gagne pas, ça envoie un drôle de message pour tous les autres qui se présentent au Bloc au Québec. Là. Alors, lui, il a un défi. Il y a un défi, Yves et François, de gagner dans sa circonscription. Alors, il devra se promener à travers le Québec, mais il devra être très présent dans son comté également s'il veut gagner.
Est-ce que tu as mis de l'essence dans ta voiture?
J'en ai pas mis. Je l'ai mis en fin de semaine, mais le tarif était le même, là. Quand je suis allée,
ça va monter.
En fin de semaine ou vendredi, là, c'était 1,16 $ ou 1,19 $, là. Mais là, je comprends que ça va monter, qu'on nous dit. Mais écoute...
Tu sais, mon hypothèse...
Toi, t'es content, hein? Toi, t'es content. Ça te coûtera pas une scène de plus, hein?
Ou un peu, parce que je consomme un peu quand même
Et pas 100% électrique.
Non, mais je suis pas content, parce que la majorité du parc automobile actuellement roule au pétrole.
C'est clair.
Et ça me fait suer, je trouve pas ça le fun. Je vais continuer à défendre les auditeurs de cette station qui consomment de l'essence. Ce qui me fait suer là-dedans, c'est que j'avançais l'hypothèse de l'occasion fait le larron. C'est que là, il y a un événement international...
Qui va justifier les hausses de coûts de pétrole.
Ben, t'sais, c'est
le prix à la pompe.
C'est comme si on dit... dès qu'on a bombardé l'Arabie, là, puis que le feu était pogné là-bas, là, dans la minute, il y en a qui nous annonçaient « Ah, le prix de l'essence va fort probablement augmenter. » Toi, t'entends ça, là, puis t'as des actions dans une grande pétrolière, là, d'après moi, là, tu passes un petit coup de fil à la direction générale, puis tu lui dis « Je pense que ce serait l'occasion peut-être de ramener ça à 1,40 $. Qu'est-ce que vous en pensez?
» En fait, ce qui est difficile, Robert, puis ce qui est plate, c'est qu'on a tellement pas de... C'est tellement pas transparent. On n'a tellement pas la lecture juste dans le coût qu'on paye à la pompe, là. Qui reçoit quelle portion de l'argent? Il y a des taxes fédérales, des taxes provinciales, de l'argent qui va aux pétrolières. Et à chaque fois qu'il y a une occasion où il y a un feu qui prend quelque part, le pétrole augmente, puis on ne sait pas, on se dit, ben oui, mais des pétrolières, il y en a partout. On s'approvisionne partout sur la planète. Pourquoi qu'un feu à un endroit précis a un impact, a une portée aussi significative sur le coût de le coût du litre à la pompe? Mais il n'y a tellement pas de transparence dans ce dossier-là. Ça n'est frustrant pour tous les Québécois.
Mais c'est parce que tout le monde a intérêt à ce que ça reste comme ça, à commencer par le gouvernement du Québec et la fameuse taxe ascenseur.
Je comprends.
Tu t'en souviens de la taxe ascenseur? Oui. Qui c'est qui nous l'avait donnée? La taxe ascenseur, c'était à Parizeau, ça? À l'époque, sur l'essence, l'ascenseur, je vous le rappelle, est encore pogné au 12e étage.
Tu comprends, Robert, que quand il y a un week-end de 3 jours, l'essence augmente. Quand on arrive à la période des vacances, l'essence... Tu sais, il n'y a tellement pas de transparence qu'on dit, est-ce que c'est vraiment juste une notion commerciale, mais on a l'impression de se faire flouer bien souvent. Et sur chaque dollar de litre, il y a à peu près 45 cents de taxes, là, autant fédérale que le provincial. Fait que les gouvernements ont intérêt à ce que le coût de l'essence soit plus cher, parce qu'en proportion, plus l'essence est chère, plus le revenu de taxes est important pour les deux paliers gouvernementaux. Mais c'est cette espèce de manque de transparence. Et il y a des gouvernements qui ont mis des prix planchers, des prix plafonds. Puis, on avait regardé ça à l'époque au gouvernement. On s'était dit, est-ce qu'on pourrait plafonner le prix du litre? Mais là, finalement, les provinces qui l'ont fait, ce sont, en tout cas, la résultante, un peu comme la régie de l'énergie, semble-t-il qu'en bout de ligne, ça revient à peu près au même. Alors, ça reste nébuleux. Quand ça augmente, on a l'impression de se faire avoir, on a l'impression de se faire voler, puis on n'est même pas certain que cette hausse-là elle est justifiée par l'événement qu'on nous dit étant responsable de la hausse.
Ben oui, parce que là, y a-t-il une rareté?
S'il y a une rareté,
ça veut-tu dire qu'il y a moins de pétrole de disponible? C'est de la spéculation,
oui,
en fait.
Oui, c'est ça que je t'ai dit.
Hein?
Oui.
C'est de la spéculation. Oui. Alors donc, point à la ligne là-dessus. Et l'autre sujet que je voulais t'amener, on n'a pas discuté avant, mais tu vas embarquer rapidement. As-tu vu les candidats, les partis, quelquefois, peuvent embarrasser leur chef? Ça arrive, ça.
Il y en a
ça.
Toujours.
Bon, t'as vu la fille, ça, dans la région de Toronto, Maxime Bernier, qui est allé recruter une pin-up. Une fille qui...
J'ai vu ça.
Bon, qui pose en petite tenue sur Instagram. Puis je pense qu'elle a fait le Playboy à quelques reprises. Une vraie playmate. Et elle est candidate pour le parti de Maxime Bernier.
Puis il va la garder, même s'il a su ça?
Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il la gardait, là. Alors je suis allé voir le profil de la madame en question. Écoute, ce ne sera pas très, très vendeur. Chez les femmes, peut-être que chez les messieurs, ça va scorer fort. Mais qu'est-ce qu'un parti peut faire? D'abord, quand on choisit un candidat, on se souvient sur la Rive-Sud, t'as-tu la CAQ à l'époque? Un jeune homme qui avait des photos de lui photographiées assis sur le bol de toilette à l'époque, puis finalement, il n'a pas été candidat. Tu sais, on a toujours un squelette dans le placard quelque part. Ma question, c'est la suivante. Un parti politique, fait-il une enquête approfondie sur les candidats avant de les officialiser dans leur fonction de candidat?
Normalement, oui, Robert. Normalement, il y a toujours une enquête qui est faite, mais de toute évidence, là, il y a toujours quelque chose qui retrousse à quelque part. Écoute, il y a eu tellement d'histoires là, au fil des années là, que normalement, les partis aujourd'hui ont resserré tout ça, puis davantage de ils font des inspections, ils font des vérifications, puis ils s'assurent que les gens n'ont pas fait des déclarations qui vont leur péter d'en face. Ils s'assurent qu'ils ont un comportement, qu'ils n'ont pas fait de faillite. Ils s'assurent de ça, Robert, mais on dirait qu'il en passe toujours à quelque part. Non, qu'il réussit.
Oui, mais dans son
s'immiscer.
Cas, la fille
mais
en
ça, c'est
question,
pas rien, là.
Dans le magazine Playboy, la fille, elle s'appelle, puis elle a deux, trois noms, là, dont Anya Krosinska, mieux connue sous le nom de Charlie Reina, qui va se présenter pour le parti de Maxime Bernier dans Amber River Black Creek, dans la région de Toronto. Elle a fait une publication sur son site Instagram, sur son compte Instagram, pour annoncer sa candidature. Et quand tu cliques sur le nom de la madame, écoute, c'est...
Ah oui, c'est vrai.
C'est pas reposant, non. C'est pas
reposant. Très explicite.
Oh, oui,
c'est
oui.
Très explicite.
Oui, 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 oui.
Mais écoute, écoute, si c'est ça, puis il la garde comme candidate, c'est pas fort. C'est pas fort de la part de M. Bernier, là. Où il savait, puis endosse. Mais s'il savait pas, puis que malgré que tout ça soit sorti publiquement, puis qu'il décide de la garder...
Non, mais il y en a qui vont, lancer la comparaison suivante. Est-ce que c'est mieux de garder... quelqu'un comme ça qui pose en petite tenue sur son Instagram...
Mais il y a une limite, Robert.
...que de garder quelqu'un qui est raciste, ouvertement raciste.
Bien, moi, peu importe, que ça soit parce qu'il est raciste, parce que c'est une question d'acceptabilité sociale. Jusqu'où tu peux accepter que quelqu'un dise des propos qui soient racistes, ou jusqu'où tu peux accepter que quelqu'un ait un comportement un peu, je vais dire, vulgaire, ou un peu, bon... Mais il y a une limite. Il y a des choses qu'on peut accepter, puis il y a des candidats, même s'ils sont un peu marginaux, qui sont quand même des candidats potentiels, qui peuvent faire le travail, puis qui sont le reflet d'une communauté. Alors moi, je pense que, et c'est pas, il y a pas juste, ça se situe, il y a une marge, là. Alors, mais on peut être marginal, mais tout en restant quelqu'un qui... Mais des fois, c'est carrément... Moi, je pense que des fois, c'est pas acceptable,
non,
tout simplement.
Regarde ça,
des fois, c'est pas acceptable, pas tout fait... simplement. J'ai... Que ça soit pour des propos racistes, que ça soit pour des comportements à caractère sexuel, il y a des fois qu'on dépasse la ligne, et quand on dépasse la ligne, je pense que les chefs, normalement, ne devraient pas accepter de garder ces candidatures-là. Là.
Elle a été sacrée Playmate internationale de l'année en 2016.
Il y a du monde qui va aller voir sur le site. Elle va devenir assurément populaire. Est-ce que ça va lui attirer autant de votes que sa popularité? Ça reste à voir.
Tu ne te souviens pas, l'actrice porno, en Italie, la Cicciolina, de mémoire, qui se présentait aux élections en Italie, puis je pense que...
Oui, c'est ça.
Elle scorait quand même pas mal à l'époque.
Des fois, c'est le reflet aussi d'une communauté, d'un comté. Est-ce que... Tu sais, le personnage qui va se présenter sur le plateau Mont-Royal n'est pas le même que celui qui se présente d'un comité, d'un comté rural. Alors, des fois, il faut être le reflet aussi des électeurs, de la communauté. Alors, peut-être que le profil, je ne sais pas quelle lecture
est-ce
ils font.
Est-ce que les partis, dernière question, on va la poser après. Est-ce que les partis, dès que la liste des candidats sont connus, là, dans les comtés les plus chauds, ont une espèce de département d'enquête qui va fouiller dans le passé des candidats pour tenter de trouver la bête noire?
Oui. Mettons les oppositions, là.
Oui.
Oui. Oui, tout à fait. Alors, quand il y a des candidats qui sortent et puis que, oui, les gens vont aller fouiller. Est-ce que par le passé, il a déjà fait des déclarations? Est-ce qu'il a déjà été présent dans des événements? Est-ce qu'on a des photos de lui avec des mafiosos, avec des gens qui sont pas honorables ou qui sont pas respectables? Est-ce qu'il a déjà fait faillite? Est-ce qu'il a déjà eu, tu le sais, là...
Péter la balloune,
l'alcool au volant. Et oui, oui, ça, ils font ça. Ils font ça. Puis des fois, quand c'est croustillant, quand c'est crunchy,
Je pense qu'ils
sortent ça pendant la campagne électorale pour... Des fois, ça fait juste perturber une journée. Alors, monsieur, mettons qu'on prend un chef de parti qui se promène, puis sa campagne va bien, mais une journée, là, où il fait une annonce qui, pour lui, est très importante pour son parti, bien là les adversaires vont sortir plein d'affaires comme ça, juste pour perturber la journée. Alors, les journalistes, au lieu de poser des questions sur le sujet de la journée, bien là, le chef, il va être pogné là, à répondre à toutes ces questions-là. Pourquoi vous l'avez gardé? Est-ce que vous étiez policier au courant, qui a déjà dit ça, qui a déjà fait une faillite, qui est arrêté pour état d'ébriété, pas une fois, pas deux fois, quatre fois, ouais, qui a déjà volé dans un magasin. Alors ça, là, ben, ton message que tu as prévu livrer, ouais, il scrappe. Ouais. Il se craque. Ta journée est perdue.
C'est donc dans les war rooms, là, c'est comme ça qu'on
ils font
les appelle.
Ça, c'est clair.
Ils font ça, puis il y en a qui sont les spécialistes
du
spin.
Il y en a qui sont extraordinaires. Hein? Puis, Robert, je te dirais qu'au-delà des gens dans les partis, tu as les journalistes. Là, le Journal de Montréal, il est extraordinaire pour ça. Tu sais, quand il veut sortir de quoi de, ben, quoi de crunchy ou...
Moi, mais tous les médias...
Tous les médias, mais des fois, le Journal de Montréal est là-dessus. Ils ont un bureau d'enquête. Ouais. Alors, ils ont des gens qui font que ça. Qui font que ça à journée longue, là.
Une courte pause. Vous voulez nous appeler? Vous avez des choses à dire ou des histoires à nous révéler? Voici le numéro à composer.
Pour joindre nos animateurs,
Robert Pilote et Julie Boulay.
Composez le 376-1069. Mauricie. Attendez-vous à plus.
Midi, 48 minutes. Merci d'écouter le 106.9. Vous voulez nous passer un petit coup de fil? Vous l'avez entendu, le numéro, le 376-1069, 376-1069. On va parler maintenant de politique provinciale, si vous le voulez. La première promesse qu'a abandonnée Justin Trudeau lorsqu'il il est arrivé au pouvoir, c'est de modifier le mode de scrutin.
Là, c'est parce que tu as parlé de politique provinciale.
C'est ça, écoute-moi. La première promesse que Justin Trudeau...
J'essaie juste de voir où tu vas. Là.
Regarde, écoute-moi bien. Là,
je t'écoute, toujours.
On va parler de politique provinciale.
Oui.
La question.
Oui.
La première promesse électorale que Justin Trudeau a abandonnée quand il a été élu, c'est...
De revoir le mode de scrutin.
Bon. Là, je ne sais pas, on nous avait promis une réforme au Québec.
La CAQ, elle s'est fait élire en disant qu'elle était pour faire une réforme du mode électoral.
Est-ce qu'on n'est pas en train d'imiter Justin Trudeau tranquillement?
Ouais. Moi, je ne pense pas pantoute qu'on imite Justin Trudeau. Je pense qu'on imite juste les autres gouvernements qui ont passé avant au Québec. Les gouvernements, là, parce que la population, ça paraît bien, Robert. On va revoir le mode de scrutin pour que ça soit juste, pour qu'il y ait une meilleure représentativité, pour qu'il y ait davantage de femmes. Écoute, le discours de la réforme du mode de scrutin électoral, c'est un discours qui plaît dans la population parce que ça nous semble plus moderne, plus adapté à la réalité, plus actuel. Alors, au lieu de faire comme on a toujours fait, je pense que ça, là-dessus, c'est... Alors, tous les partis souhaitent faire ça, mais lorsqu'ils sont au gouvernement, ils abandonnent tous l'idée. OK? Et ils l'abandonnent pourquoi? Parce que dans ce mode de scrutin-là, il y a des députés élus et il y a des députés qui sont mis sur une liste de candidats. OK? Alors, là, les députés qui sont élus à la CAQ, là, puis ils n'ont bon nombre, là, bien là, quand on leur dit, là, la prochaine élection, là, ça ne marchera plus comme ça, là, ce n'est pas vos électeurs qui vont décider. Certains d'entre vous vont être encore sur la même formule, ils vont être élus au suffrage universel de votre comté, mais d'autres vont être mis sur une liste, puis ça ne sera peut-être pas vous autres qui allez être mis sur la liste, puis ça veut dire que vous ne serez peut-être même plus députés. Puis vous n'aurez même pas la chance de dire que vous voulez l'être, puis vous n'aurez même pas la chance de vivre une campagne électorale. Parce que vous allez être mis sur une liste avec d'autres candidatures qui vont nous être proposées par la population. Alors, écoute, là, il y en a peut-être le tiers d'entre eux, pour ne pas dire peut-être même plus, qui ne seront plus... Ils n'auront le choix de faire une... Ils n'en auront pas. Ouais, ils n'auront pas de campagne électorale. Ils ne seront plus élus, ils ne seront plus députés. Ils
ne
gagneront plus 100 000 piastres.
Oui, mais regarde, Julie, tu peux toujours lui dire... Bon, d'abord, là, ça se peut qu'effectivement, tu perdes ton comté, mais on va te mettre sur la liste. D'abord, toi, tu vas être un des députés qui va être sur la liste.
Tu comprends-tu?
La première chose que tu lui dis. Par ailleurs... Ce que tu vas dire, c'est que là, dorénavant, il va y avoir des assemblées d'investiture pour les comtés. Au lieu d'avoir des candidats nommés qui sont partout, tu vas pouvoir te présenter. Tu vas vivre la démocratie, mais tu vas devoir
Robert,
te présenter.
Quand quelqu'un est déjà élu, quand quelqu'un est député, il n'y a pas un parti qui fait des investitures. Quand quelqu'un est déjà en place, c'est très rare. Il y a en fond
de temps en temps. Il y a en fond,
fois, quand il y a en fond, Robert, là, c'est parce qu'ils veulent tasser le député. C'est parce qu'ils ont eu maille à partir avec un député. Si le député n'a pas suivi les lignes de parti, le député n'a pas fait ce qu'on voulait, ça arrive qu'il vont faire une investiture. Mais normalement, si un député est en place, il n'y a pas d'investiture.
Bon. L'autre idée, c'est que si on abandonne le projet pour la prochaine élection, on pourrait peut-être utiliser la prochaine élection pour faire un référendum.
Oui, bien ça, ça serait intéressant. Mais ce qu'il nous avait dit, puis là, il donne comme excuse, le directeur général des élections nous a dit que ça y prenait du temps.
Oui.
Écoute.
20-quelques mois,
ouais,
là, c'est ça.
C'est un peu facile là, comme réponse. Là. Tout court, là, ce qu'on comprend, c'est qu'ils en ont parlé dans l'intérieur de leur caucus, puis leur caucus n'a pas voulu procéder. Mais ça, là, les libéraux ont fait pareil avant, là. Ça fait au moins une décennie qu'on parle de ça, si c'est pas plus. Et chaque gouvernement qui est en place, quand il amène ça à l'intérieur de son caucus, c'est une idée qui ne va pas plus loin parce que les députés qui sont là, qui sont élus, qui gagnent un bon salaire, ne veulent pas risquer de perdre leur place. Et l'autre chose, Robert, ce qu'il faut comprendre, moi, ici, comme fille des régions, le mode de scrutin, c'est très important de le dire, ce nouveau mode de scrutin-là affaiblirait la représentativité des régions. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention.
Je ne suis pas sûr de
ben,
ça. Normalement,
ça a ça comme conséquence et souvent, ça donne des gouvernements minoritaires. Alors, est-ce que c'est
des gouvernements à l'italienne, là.
Hein? C'est des fusions de partis.
C'est ça, des coalitions.
Des coalitions. Ouais. Bon, est-ce que c'est vraiment, vraiment la bonne chose à faire pour nous qui sommes en région? La question se pose et je ne suis pas la spécialiste pour vous répondre de tous les tenants et bouts de sang, mais la question se pose.
Au téléphone, on a Gaston qui veut nous dire un beau bonjour. Bonjour, Gaston.
Bonjour, Gaston.
Bonjour, madame. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Oui, c'est par rapport à la représentativité. Là. D'abord, les partis, quand il manque... on a eu l'occasion, avec quelques élections, il manquait tant de votes ou un seul siège, disons, au PQ, au Bloc, au NPD, pour avoir le budget de fonctionnement dans les assemblées nationales qui les concernent. OK?
Oui.
Fait qu'il faudrait arrêter de jouer là-dessus. Si on met 10 députés minimum, bien aussi le pourcentage des voix, si seulement le NPD a juste 9 députés, bien si on 12% ou 10 des voix, là, c'est à regarder là, pour que ces partis-là puissent survivre, faire avancer leur cause, avant de tomber dans un système où personne ne comprend visiblement rien. Là.
Votre commentaire est bon, Gaston. Je ne suis pas une spécialiste, là, mais vous avez raison qu'il faut franchir le seuil de 10 pour avoir les budgets de recherche à l'Assemblée nationale. Là, vous avez raison, c'est que même sur les 8, ça pourrait être proportionnel, finalement, au pourcentage de vote. Là.
Mais moi,
Oui,
Gaston, mais moi, je suis convaincu qu'on est rendu là aujourd'hui. OK?
Oui.
Ça fait toute partie de la réforme.
Longtemps, le Québec a été mu par le bipartisme. Hein? C'était
deux partis. Ça alternait.
Là, maintenant, on peut-tu aller voir ailleurs? La montée des Verts au Québec. Bon, Québec solidaire, qui est très, très à gauche.
Oui.
Puis il y a toujours les indépendants, tu sais, les libéraux, les conservateurs.
Oui.
Bon,
puis tu sais, Robert, les gens aiment ça, les gouvernements minoritaires, parce que quand on est minoritaire, on n'a pas le choix de travailler en collaboration avec les oppositions.
Exact.
Alors, c'est pas unilatéral.
Puis, pour supporter tout ce que je disais, avant de l'oublier, ce que je voulais vous dire, c'est très important. Le vote de certains pays, en accident surtout, est rendu obligatoire. Il y aurait-tu moyen de trouver un mécanisme qui permettrait, en Belgique, je pense qu'ils donnent 50 euros, là. Bon, il y aurait-tu moyen de trouver une façon pour obliger nos gens à aller voter une fois pour toutes, puis c'est par électronique. Ça serait l'idéal. Tu veux pas voter, tu veux annuler, on saurait qu'il annule, puis on aurait une très bonne... Il y a des gens qui ont de la misère à se déplacer le jour des élections. Il y a des vieux, on fait partie, on aime ça, bon, etc., là, mais c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de frais. Quand est-ce qu'on va être capable d'arriver avec de l'élection électronique informatique?
C'est un très bon point, M. Gaston.
Ils ont fait des tentatives,
alors,
ça n'a pas été
beaucoup
très
mieux
fructueux.
Que c'était, là, c'est beaucoup mieux que c'était. On peut voter n'importe quelle journée en allant au bureau du directeur général des élections. Il y a beaucoup de bureaux de vote qui se déplacent dans les établissements où il y a des personnes aînées. C'est beaucoup mieux, M. Gaston. Mais effectivement, si on veut, parce que là, ça frôle le 50% là, quand il y a des élections.
50-60.
Alors, si on veut que ça s'améliore, il va falloir trouver d'autres moyens d'être encore plus accessible à la majorité des électeurs.
Merci beaucoup.
Merci. Oui.
Puis, pardonnez-moi, j'ai un troisième élément à ça. Là. Il faudrait absolument que j'ai oublié. que les partis... Ah oui, si on veut commencer une approche de ce genre-là, on pourrait peut-être demander aux gens qui mettraient leur deuxième choix comme députés. Puis là, après ça, avec le décompte, si Guy Caron, dans son comté, il est deuxième choix, ben à ce moment-là, on lui donne une fonction quelconque à l'Assemblée nationale pour son NPD à lui.
Merci beaucoup.
Au gouvernement fédéral. Bonjour.
Merci, M. Gaston.
À bientôt.
Bonjour.
Ouais. Non, je pense pas que forcer le monde à voter.
Ben, non, les forcer, on peut pas. Puis je pense que c'est la beauté de la démocratie aussi,
oui,
Robert.
Oui.
La beauté de la démocratie, c'est que les gens s'expriment si on le goût de s'exprimer.
Ah, puis même quand tu t'exprimes pas, tu t'exprimes quand même.
Oui, tout à fait.
Quand il y a un je m'en foutisme à hauteur de 40-45%, il faut saisir
c'est
le message.
C'est un message très fort. Mais il faut que les gens... faut juste les... susciter l'intérêt. Il faut qu'on soit capable d'aller les chercher puis de leur dire, si vous vous exprimez, vous êtes en mesure de choisir votre avenir, de choisir comment vous voulez que ces gens-là s'occupent de vous dans votre quotidien. Mais ça, si on ne les intéresse pas, là, c'est à faute des politiciens. C'est à nous autres à revoir notre façon de faire de la politique.
Oui, merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous...
plaisir.
C'est déjà terminé.
Mais oui.
Ça passe vite, une heure.
Mais oui,
hein?
Tout à fait.
Bon, alors jeudi...
Oui, je vais être là au rendez-vous.
J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le monde politique d'ici
jeudi. Ah, ça bouge
vite,
hein? Quand il y a des élections, là, chaque jour suffit sa peine parce qu'il y a beaucoup de nouvelles puis d'actualités.
Vous avez entendu tout au cours de cette heure Julie Boulay. Vous voulez réentendre ce que Julie nous a raconté pendant cette dernière heure? Je vous invite à aller sur notre site web en balado-diffusion. Vous aurez le bonheur de réentendre tout ça. Une courte pause. Justement, on va revenir avec Mathieu Gaudreau tout de suite après le bulletin de nouvelles sur la chanson. C'est un gars qui travaille auprès des politiciens, qui fait du marketing. Mathieu Gaudreau, après les nouvelles.